Bienvenue à Beta Finch, votre analyse d'earning alimentée par l'IA. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous décomposons les résultats du premier trimestre 2026 de Pfizer. C'est un début d'année solide pour le géant pharmaceutique, avec des chiffres qui ont dépassé les attentes et une stratégie intéressante en matière d'oncologie et d'obésité. Avant de commencer, je dois partager un avertissement important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Avec Jordan à mes côtés, explorons ce qui s'est passé chez Pfizer ce trimestre.
Merci, Alex. Je suis ravi d'être là. Et honnêtement, en regardant ces chiffres, il y a beaucoup à déballer. Pfizer a vraiment eu un bon trimestre, et je pense que les investisseurs commencent à voir comment l'entreprise navigue à travers une période de transition difficile.
Tout à fait. Commençons par les chiffres fondamentaux. Pfizer a rapporté des revenus totaux de 14,5 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les attentes. C'est une augmentation opérationnelle de 2%, mais voici le détail intéressant, Jordan.
Oui, et c'est crucial. Si vous excluez les produits Covid, le cœur de l'activité a enregistré une croissance opérationnelle d'environ 7%. C'est solide. Et sur la ligne inférieure, le bénéfice par action dilué ajusté était de 0,75$, ce qui a également dépassé les attentes.
Exactement. Et David Danton, le directeur financier, a souligné que cela reflétait une exécution commerciale disciplinée à travers le portefeuille. Mais voici ce qui m'a vraiment intéressé.
Les produits lancés et acquis ont généré 3,1 milliards de dollars en revenus et ont augmenté d'environ 22% en termes opérationnels. C'est important parce que cela montre comment Pfizer navigue ce que nous appelons les « falaises de perte d'exclusivité » ou LOE. L'entreprise perd les droits sur certains médicaments populaires, ce qui signifie que les concurrents génériques arrivent. Pfizer a investi dans l'acquisition de nouveaux produits et des lancements pour compenser ces pertes attendues.
Bien dit. Et Albert Bourla, le PDG, a mentionné que les trois plus grandes transactions commerciales représentent environ 8% du capital investi ces dernières années et progressent très bien. Parlons de quelques-unes de ces transactions clés. Commençons par l'acquisition de Seagen pour l'oncologie.
Oui, c'est un domaine où Pfizer fait vraiment du bruit. Bourla a expliqué que Seagen a transformé l'organisation oncologique de Pfizer. Les produits Seagen ont enregistré une croissance opérationnelle de 20% d'une année sur l'autre. C'est impressionnant dans un domaine aussi compétitif.
Et puis il y a le pipeline oncologique actuel. Pfizer attend plusieurs jalons clés pour 2026. Il cible environ 20 débuts d'études pivotales, 8 lectures de données clés et 4 décisions réglementaires. Environ la moitié de ceux-ci proviendrait de l'oncologie.
Ce qui me fascine, c'est le détail spécifique sur PADCEF. Bourla a mentionné des résultats positifs d'une étude pour le cancer de la vessie. PADCEF plus le pembrolizumab réduisait le risque de récidive ou de décès d'environ 50% chez les patients atteints d'un cancer de la vessie muscle invasif sensible aux cisplatines.
C'est énorme. Le cancer de la vessie touche plus de 614 000 patients par an à l'échelle mondiale, dont environ 85 000 aux États-Unis. Si ce médicament peut devenir le nouveau standard de soins, c'est un marché important. Parlons maintenant de l'obésité, qui est une autre grande opportunité stratégique.
D'accord, donc Pfizer a acquis Metsera, et c'est vraiment intéressant parce que l'espace GLP-1 pour la gestion du poids chronique est en plein essor. Bourla a mentionné qu'ils avanceraient 10 études de phase 3 cette année, ciblant une première approbation en 2028.
Et voici ce qui m'a frappé. Bourla a spécifiquement mentionné des peptides ultra-longue durée d'action avec un dosage de maintenance mensuelle différencié. En d'autres termes, si vous n'aimez pas vous injecter toutes les semaines, Pfizer pourrait avoir une réponse.
Exactement. C'est différenciation. Et Alexandre de Germay, responsable des affaires internationales, a mentionné qu'ils viennent de lancer Ecnoglutide en Chine la semaine dernière. C'est la première semaine, donc il est trop tôt pour parler de pénétration, mais c'est une indication que Pfizer ne dort pas aux niveaux internationaux.
Maintenant, parlons de quelque chose qui a vraiment changé la donne pour Pfizer, les développements juridiques. Dave Danton a mentionné deux grandes victoires légales qui améliorent considérablement les perspectives de flux de trésorerie post-2028.
Oui, et c'est un gros problème. D'abord, il y a les accords de règlement concernant l'infraction de brevet liée à Vindamax, qui repousse essentiellement la perte d'exclusivité de plusieurs années. C'est un produit de 6 milliards de dollars plus, donc cela change vraiment les perspectives.
Et puis il y a la décision du tribunal belge concernant les contrats Comirnaty avec les pays membres de l'UE. Bourla a dit que cela améliore les perspectives d'EPS et de flux de trésorerie. Maintenant, avec cette clarté, Pfizer cible un taux de croissance du chiffre d'affaires à un seul chiffre élevé sur 5 ans à partir de 2029.
Et c'est important pour les investisseurs car cela signifie une plus grande clarté sur le profil de croissance de l'entreprise. Les investisseurs détestent l'incertitude. Maintenant que Bourla peut pointer vers une trajectoire de croissance spécifique post-2028, c'est rassurant.
Absolument. En parlant de capital action, Pfizer a confirmé sa guidance pour 2026, ciblant des revenus totaux entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, avec un bénéfice par action dilué ajusté entre 2,80 et 3,00 dollars.
Ce qui est important ici, c'est qu'ils n'ont pas relevé la guidance malgré un excellent trimestre. Pourquoi ? Parce que le Covid est saisonnier. Danton a expliqué qu'ils s'attendent à ce que la majorité des ventes de Comirnaty interviennent vers la fin de l'année. Donc, techniquement, ils se sont positionnés de manière prudente.
Exactement. Et en termes d'allocation de capital, Pfizer a investi 2,5 milliards de dollars en R&D interne au First Carté et a retourné 2,4 milliards aux actionnaires via les dividendes. Ils ont également fermé la vente de leur participation dans ZV pour environ 1,65 milliard de dollars en produits nets.
Et cela leur donne une capacité de développement commercial d'environ 7 milliards de dollars. Maintenant, il y a une question intéressante, Pfizer sera-t-il tenté de faire une grande acquisition ? Bourla a été clair sur ce point. Il a dit qu'il n'envisage pas de méga-fusion à court terme parce que la priorisation est la transformation de l'IA et l'exécution du pipeline actuel.
C'est une réponse prudente et sensée. Les méga-fusions sont disruptives. Pfizer dit essentiellement, nous avons un bon pipeline, une bonne stratégie, et nous voulons l'exécuter sans la distraction d'une intégration majeure.
Exactement. Et je pense que cela parle à la confiance des dirigeants. Quand on regarde où Pfizer se positionne avec les acquisitions de Seagen et Metsera qui fonctionnent bien, un pipeline oncologique robuste, et maintenant une clarté juridique sur Vindamax, l'équipe de direction semble croire qu'elle peut créer de la valeur sans avoir besoin d'une grosse transaction.
Ce qui est fascinant, c'est également la réorganisation organisationnelle. Bourla a mentionné qu'il a rationalisé son équipe de direction en réduisant les membres de 4 au fil de 2 ans. Il a déplacé le développement commercial sous Chris Boshoff et réorganisé d'autres fonctions. C'est du housekeeping, mais cela signale une simplification.
Et dans les appels aux investisseurs, la simplification est généralement une bonne chose. Moins de niveaux de bureaucratie, une meilleure exécution. Boshoff a fourni d'excellents détails techniques sur le pipeline oncologique, ce qui montre que l'équipe est vraiment engagée dans les détails.
Donc, en résumé, voici ce que nous voyons, Pfizer a eu un trimestre solide, avec une croissance hors Covid d'environ 7%. Ils ont confirmé leur guidance pour 2026. Leurs acquisitions stratégiques fonctionnent bien. Le pipeline oncologique s'accélère. Et ils ont juste obtenu une clarté juridique majeure qui change fondamentalement la trajectoire de croissance post-2028.
Et n'oublions pas l'IA. Bourla a mentionné que l'intégration de l'IA dans R&D, les opérations commerciales et même la fabrication est une priorité stratégique clé. C'est un thème que nous verrons probablement dans les entreprises pharmaceutiques pour les années à venir.
Absolument. Pour les investisseurs, Pfizer semble être une entreprise en transition. Il gère une période difficile de perte d'exclusivité jusqu'en 2028, mais la trajectoire post-2028 semble de plus en plus claire. Avec une croissance des produits lancés et acquis de 22% et un pipeline prometteur, il y a une histoire convaincante en développement.
Et le dividende de Bourla a été très clair. Il s'engage à maintenir et à augmenter au fil du temps le dividende. C'est un signal de confiance de la direction.
Excellent. Avant de conclure, Jordan, une dernière réflexion ?
Juste ceci, il est facile de devenir submergé par tous les détails des appels de revenus. Mais le message clé ici est que Pfizer navigue bien une transition difficile et émerge de l'autre côté avec une base commerciale plus forte. C'est important.
Parfaitement dit.
Maintenant, avant de nous terminer, je dois partager un avertissement important. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable et consulter un professionnel de l'investissement avant de prendre des décisions commerciales.
Merci, Jordan. Merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté Beta Finch. Pour plus d'analyses d'earnings et de résumés d'appels de conférences, assurez-vous de nous écouter prochainement. Continuez à apprendre, continuez à investir intelligemment, et nous vous verrons à la prochaine déclaration de revenus. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.